Alors ce soir, on va continuer le périple du séminaire. Je vais dire quelques mots de ce que j'avançais la dernière fois, aussi bien les autres fois, bien sûr. À savoir que dès que je parle, je pense que je sais ce que je dis. Et c'est dans la structure même de la phrase. Puisque le sujet dirige une troisième personne, éventuellement. Mais si je dis « je parle », c'est donc le sujet et la première personne. Et donc, je sais ce que je dis à peu près, je pense que je sais ce que je dis. Alors, ce qui est attendu, évidemment, c'est que je sois, on va dire, à sujet d'une troisième personne. C'est-à-dire que c'est le « je » qui parle. Donc quand je dis « je parle », simplement ça, je suis dans le malentendu habituel, inévitable. Ce que j'ajoutais la dernière fois, c'est le fait que ça, c'est une avancée de ce discours nouveau qui apparaît à la fin du 19e, avec Freud, ensuite qui va être repris et développé par Lacan. Dès que je dis quoi que ce soit, en fait, je suis dans une rencontre de trois registres, de trois dimensions, l'imaginaire, le symbolique et le réel. Et c'est ça qui doit être pris en compte quand on part un psychanalyste. Pour autant que, évidemment, là, le simplissime, le plus, on pourrait dire, peut-être justement, le blabla, c'est même pas le blabla, la débilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que je suis dans un registre particulier qu'on appelle l'imaginaire, et je parle avec des mots qui sont de l'ordre du symbolique. Et du coup est occultée la dimension du réel. L'imaginaire, c'est quoi? C'est pas j'imagine, c'est pas ce que j'imagine, hein, au sens habituel du terme. C'est pas ce que je m'imagine. C'est un espace temporel et spatial que j'ai été amené en tant qu'être parlant à développer très tôt. Et pourquoi j'ai développé? Parce que quand je suis arrivé dans ce monde-là, qui fout le camp dans tous les sens maintenant, encore peut-être plus qu'avant, dans cet immonde-là, eh bien quand je suis arrivé là, j'étais pas fini. Et je suis toujours pas fini. Ça, c'est important, parce que si j'étais fini, il n'y aurait pas de création du tout possible. Il n'y aurait plus que ce que j'ai évoqué la dernière fois, là, c'est-à-dire l'eidos platonicien, l'eidos, c'est-à-dire la forme, hein, le kalos, kai, kagatos en grec, la belle et bonne forme, et tout ceci renvoie à cet eidos de Platon. Même si on peut penser qu'il y a autre chose dans l'eidos de Platon, parce qu'il y a la dimension du symbolique qui est importante. Bon, alors, donc, quand je parle, surtout dans cette dimension du « je » qui parle, hein, parle troisième personne, Qu'est-ce qui parle? C'est ça qu'on peut dire, puisque ce n'est pas la pensée qui parle là. Et là, ça nous fait entrer d'emblée dans la question qu'on essaie de soulever, c'est ce qu'on va appeler le corps. Mais attention, ce n'est pas le corps qu'on connaît. Ce n'est pas le corps de la médecine, de la psychologie, de la physiologie, de l'anatomie. Ça, c'est un corps qui se développe dans l'espace imaginaire. Même s'il y a des examens très compliqués, très fins, même s'il y a des techniques très particulières qui visent à voir l'infiniment petit, à pouvoir le voir alors qu'avant on ne pouvait pas le voir, eh bien tout ceci, ça reste de l'ordre du voir, c'est-à-dire de l'imaginaire, de l'image, de l'eidos, de l'idole. Eidos, idole. On glisse facilement là. Et tout ça, ça va nous amener à cette question, effectivement, qu'il y a une certaine jouissance, J-O-U-I-S-E-N-S, ça se dit exactement pareil que jouissance, J-O-U-I-2-S-A-N-C-E, c'est pas du tout le même chant. Vous voyez que là, le son, la phonétique, suivant ce qui est entendu, conduit au fait qu'il y a un au-delà, justement, du sens. Hein, écrit comme ça, J-O-U-I-E-S-E-N-S, c'est la façon dont Lacan l'écrit. Et il y a le mot sens dedans, qui est justement là pour tromper, parce qu'il ne s'agit pas de sens. Il s'agit d'une certaine façon d'ouïr, bien sûr, mais surtout de dire oui à quelque chose. Et la langue, comme elle nous, de dire oui à un jeu oui, jouis. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Voilà la grande question. Et c'est autour de ça qu'il est possible d'approcher la question du corps. Quand je dis du corps, hein, dans la langue française, c'est un partitif. C'est comme quand on dit du pain. C'est pas le pain. C'est du pain. C'est un partitif. C'est pas pour rien que tout ça, on a eu du mal à faire rentrer ça un peu dans notre espace imaginaire quand on l'a appris, parce qu'on ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire. Mais c'est pas rien de nommer les choses comme ça. Hein. Alors, il en arrive ceci, quand je parle, ou quand quelqu'un parle, ou que quand quelqu'un qui dirait « je parle », quel est, on va partir là-dessus, quel est le matériel qui est en jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Puisque ce que je vous évoque, c'est que ce n'est pas tant le matériel de la pensée, mais le matériel du sens tel qu'il est décrit dans le dictionnaire. Hein? D'avoir joué comme ça avec « je, oui, joui, oui », ça montre bien que c'est autre chose qui est en jeu. Mais c'est ça la question, justement. Quel est le matériel? Est-ce que le matériel, c'est le matériel? Est-ce que c'est le mot? Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas ça. Ce n'est pas le mot. Autrement dit, lorsque quelqu'un vient et peut dire « je parle », la question, ce n'est pas tant de l'écouter, c'est de l'entendre. Alors, bien sûr, entendre, ça vient de audire en latin. On a des audios là, hein, c'est ça. Et c'est ob audire qui veut dire obéir. Mais entendre, vous voyez que si on le tire un peu, c'est le cas de le dire, si on le tire un peu en jouant sur la langue, On pourrait dire que cette odiré, c'est faire qu'il y ait quelque chose de l'autre. De l'autre, de l'autre. Ce n'est pas des jeux de mots que je fais. Parce que si c'était des jeux de mots, justement, ça collerait. Là, ça ne colle pas. Il y a toujours, quand il y a quelque chose d'important, le fait que il y a un tout petit glissement, il y a quelque chose qui passe. Eh bien, le matériel, il est là. Le matériel de la langue, il est dans ce, par exemple, là, ça me vient comme ça en vous parlant, dans ce passage de l'autre à l'autre. Donc, qu'est-ce qui sera possible d'être entendu? Voilà la question. C'est ce qui va se passer dans un lapsus qui va devenir un mot d'esprit. Ça devient un mot d'esprit parce que celui qui l'entend, le récepteur, comme on dit, n'est pas un récepteur simple, mais est convoqué en un lieu où le langage est pris en compte pour lui, pour celui qui l'entend, pour le récepteur, alors que celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a émis, eh bien, il a été surpris parce qu'il ne sait pas du tout qu'il va aller mettre ça. Ce n'est pas du tout préparé. Et tout à coup, pour des raisons énigmatiques, c'est ce que décrit Freud dans le Bon Esprit en 1905, tout à coup, il va y avoir une rencontre entre les deux partenaires qui sont là. Et oui, la véritable rencontre, elle se fait au niveau de la langue. Le rapport, le couple se fait au niveau de la langue et non pas au niveau de l'imaginaire. Et notamment, dès qu'on pense à l'imaginaire, on va dire la dimension du fantasme, c'est-à-dire le corps sexualisé, tel qu'on le connaît habituellement. Il n'empêche qu'on n'arrête pas, évidemment, d'être pris par ce que l'on voit du corps, parce que c'est comme ça, parce qu'on est pris par ce qu'on voit, et du coup, on imagine, et on pourrait dire on s'imagine, qu'il peut y avoir, entre deux personnes, finalement assez différentes physiquement, ce qui n'est pas le cas chez les animaux, entre le mâle et la femelle, ce n'est pas forcément différent. Mais entre deux personnes, un homme, ce qu'on appelle un homme et une femme, je prends le cas classique, évidemment il y en a d'autres, ça peut être deux hommes, deux femmes, etc. Mais je prends l'exemple le plus évident, je dirais, eh bien il est attendu qu'entre un homme et une femme, il puisse y avoir un rapport sexuel, et on dit que le rapport sexuel, en plus quand on parle de rapport sexuel, on parle que du génital, c'est-à-dire que on mélange tout le sexuel et le génital. Vous voyez, dans quel mélasse on est dès qu'on ne peut pas prendre en compte ce qui est en jeu. Alors chacun fait comme il peut avec son partenaire, on va dire génital ou sexuel. Bon, c'est pas de ça dont je veux parler, parce que c'est pas ça l'enjeu, puisque l'enjeu du discours analytique, c'est la mise en jeu du langage. Ce que je suis en train de vous dire à partir du mot d'esprit, c'est que la rencontre entre la dimension du masculin et du féminin se fait au niveau du langage. Et non pas au niveau des caractères sexuels. Ça ne l'exclut pas, mais on a déjà glissé. Alors, et du coup, vous voyez que, et là on en a déjà beaucoup parlé, il importe de différencier le masculin et le féminin autrement qu'à partir de ce qu'on voit comme signe sur le corps. Sur le corps et dans le corps. On appelle les caractères sexuels primaires, secondaires et tertiaires. J'insiste bien, ça ne veut pas dire que ça n'est pas une certaine existence. Hein? Ce que l'on connaît là, justement, c'est de l'ordre du connaître. On peut dire qu'il y a trois types de connaître. Hein? Il y a le sens mondain. Ah oui, celui-là, je le connais. Bon, c'est qu'on n'y connaît rien du tout. On n'est pas grand-chose. Hein? Il y a le sens étymologique, connaître, sens biblique, naître avec, où là, effectivement, on se rapprocherait de la sexualité habituelle. Hein? On peut se demander si Une femme ne connaît pas plus un homme quand elle a couché avec lui qu'un homme connaît une femme quand il a couché avec elle, par exemple. C'est la connaissance, hein. Donc, ils vont y aller là-dessus. Dieu sait si ça va fleurir. Et puis, il y a un autre connaître qui était écrit sur le fronton du temple à Delphes, Gnotis et Autonne. Connais-toi toi-même. Là, c'est autre chose parce qu'on s'adresse. On s'adresse à quelqu'un, mais dans un certain contexte, il aurait été possible d'y connaître un peu quelque chose. Ça nous amène à opposer la connaissance. Vous voyez que la connaissance, ça s'apprend. D'une certaine façon, c'est ce que je fais, parce que j'essaie de faire. Mais je sais aussi qu'il y a autre chose dans ce que je dis, que ce que je peux transmettre avec des mots. Il y a donc la connaissance, c'est ce qui se passe quand on fait des études. On apprend des connaissances. Des connaissances qui, par ailleurs, peuvent se retrouver. Même dans les sciences compliquées, on peut refaire l'expérience, on peut le démontrer. Et puis, il y a autre chose qui est le savoir. C'est Lacan qui fait cette différenciation. Le savoir, et notamment le savoir inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas déjà là, qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas montrer. C'est quelque chose, le savoir inconscient, qui s'élabore. C'est ce quelque chose qui s'est élaboré tout à l'heure, qui a pu s'élaborer tout à l'heure, dans ce mode esprit, que j'ai forcé un peu, bien sûr, pour faire comprendre, hein. Pas vraiment mon esprit, mais c'est pour comprendre, de l'autre à l'autre. On peut tout à fait faire un lapsus quand on va dans ce sens-là. Donc, l'important, c'est l'entendre. C'est l'entendre et l'entendre par rapport à ces trois dimensions dont je parlais tout à l'heure. Et on a pu articuler ça, tout ça. On a pu articuler tout ça à partir de deux types de jouissances dont je parlais, que j'évoquais. L'une qui est la jouissance liée au sens des mots, et sa jouissance phallique, et puis une autre jouissance, alors c'est ça l'autre, lire bien le mot là, hein, l'autre jouissance qui met en jeu cette dimension du corps à entendre comme n'ayant rien à voir avec quelque plaisir que ce soit. C'est quelque chose qui se trouve, qui est lié au langage. Et l'inconscient, cette dimension de l'autre, du grand A, est ce savoir où sont déposés, que l'on appelle des signifiants. Les signifiants, c'est-à-dire quelque chose qui échappe au sens. Alors je voudrais, je ne vais pas trop reprendre ça, je le reprends aujourd'hui pour que ceux qui ont suivi jusque-là, peut-être arrivent un peu mieux à se retrouver, mais de toute façon on le reprendra ultérieurement à nouveau. Vous voyez que l'important, du fait qu'on n'est pas fini, alors bien sûr on va se débrouiller pour se finir, hein, ce qu'on appelle le stade du miroir, la jubilation, du stade du miroir, c'est-à-dire cet espace temporo-spatial où on va se connaître, tout ceci étant défini par notre rapport à l'autre, notamment à la voix maternelle, tout ceci va se développer d'une certaine façon, de telle façon qu'on va pouvoir se trouver là-dedans. On va pouvoir se mettre à penser, on va pouvoir se mettre à parler, mais c'est au détriment de la jouissance du corps, J-O-U-I-T-R-E-S-E-N-S. C'est au détriment. Et la création artistique, elle revient sur ce type de jouissance-là. C'est au détriment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'opère par la dimension du refoulement. La pensée est liée au refoulement. Est-ce que c'est un progrès? Je ne sais pas, mais enfin, ça nous permet d'échanger quand même. Donc, Évidemment, si on en reste que sur le champ de la pensée, oui, on ne prend pas du tout en compte, on prend en compte les connaissances, bien sûr, qui vont être plus ou moins développées du fait que, ben oui, précisément, on a peut-être des aptitudes intellectuelles plus conséquentes. C'est-à-dire qu'on est, oui, on peut plus facilement faire des cases avec des choses dedans, qu'on range, hein, comme ça. Et puis, à côté de ça, ben, il y a autre chose qui, en fait, est recouvert. Voilà. Alors, évidemment, le refoulement, eh bien, ça coûte. Et le prix à payer, ce sera des symptômes. On aura des symptômes. Ça, ça a été découvert, évidemment, par Freud. Il ne le dit pas forcément comme ça, mais on peut tout à fait le dire comme ça. Donc, vous voyez que, enfin, ce qu'on appelle un psychanalyste, c'est faire un travail personnel de ce mode-là, ça consiste à essayer de revenir là, sur ce point de refoulement, propre à chacun, pour que quelque chose de cette jouissance, de ce oui au jeu, du signifiant, puisse tout à coup faire effraction. Si ça fait effraction de ses reconnus, après on n'est plus comme avant. Et ça survient justement sans qu'on l'ait préparé, sans qu'on s'en rende compte. Donc, l'expérience, on pourrait dire, esthétique, elle est là. Elle est là dans ce soudain temps particulier où les deux types de jouissance, on pourrait dire, font couple, où le masculin fait couple avec le féminin, parce que, évidemment, ce qui permet de s'approcher de ce type de jouissance liée au langage, c'est ce que Lacan va nommer la dimension du féminin. Est-ce que ça veut dire que celles qu'on appelle les femmes sont plus proches que ceux qu'on appelle les hommes de ça? On pourrait aller dans ce sens-là. Il n'empêche que, on peut trouver notamment chez les mystiques, par exemple Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, dans les écrits qu'il nous laisse, le fait que lui, il était très très proche de cette position-là. Autrement dit, tout ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire l'évidence, dans le mot évidence, il y a videre, qui veut dire voir, nous aliène, c'est comme ça. On est pris là-dedans. Voilà. Tout ce qu'on voit nous aliène, c'est l'évidence. Et toute la question, c'est d'arriver à vider, c'est étrange, parce que c'est le même mot, vider et videré, apparemment non. Hein? À vider l'évidence. Alors vous voyez comment apparaît quoi? Ben, c'est la dimension du trou, évidemment. C'est-à-dire du manque, il y a un trou dans le savoir, pas dans la connaissance. Non, non, mais ça, il n'y a pas de trou, hein. Pas question qu'il y ait un trou dans les connaissances. Pas du tout. Hein? Surtout depuis qu'il y a l'informatique, qui va bien plus vite que les humains, il n'y a pas de trou. On peut tout savoir. On vit là-dessus. Néanmoins, la vie, elle est du côté du trou dans le savoir. Pas dans les connaissances. Et ceci a été mis en évidence par Freud très tôt dans le rêve. Il s'est rendu compte que les patients qui associaient, hein, puisqu'on dit que vous avez vu, on a énoncé le rêve, ce qui est dit, c'est essayer de dire ce qui vous vient. Il s'est rendu compte que les associations du rêveur débutaient sur un point qu'il va appeler Unerkannt, du non reconnu, un trou. On ne peut pas aller plus loin, ça s'arrête là. Les mots, le matérialisme s'arrête là. Donc qu'est-ce que la matière? Alors là, ça nous ramène aussi aux Grecs, Aristote, etc. Qu'est-ce que la matière? Mais on a toujours vécu la matière par rapport à un couple, par rapport au mouvement. Toujours, ça a toujours été comme ça. On a toujours voulu, on a ce fantasme du rapport. Quitte à en crever, on est là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de rapport. Mais ce n'est pas celui qu'on pense. Vous savez bien que dès qu'on se met à penser, quand on fait l'amour, on ne peut pas jouir. Le moment de cette petite mort-là, c'est le moment où il n'y a pas de pensée. Hein, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui, justement, n'arrêtent pas de penser « Est-ce que je vais y arriver ?» ou « Est-ce que je ne sais pas quoi ?» Il y a quelque chose, il y a un moment de dépassement. Je ne vais pas parler de trop, là, de dépassement. Vous voyez qu'on est, on est quand même très proche d'un univers qui est en fait l'universel. L'universel, ce n'est pas la connaissance, comme on nous l'a rabâché. L'universel, c'est qu'il y a un point de rencontre possible pour l'homme comme pour la femme, les prétendus, hein, comme dit Lacan, les supposés hommes ou femmes, à partir de l'état civil, il y a un point, effectivement, de rencontre avec quoi ? Alors là, on va dire l'autre sexe, bien sûr, mais ça ne dit pas ce que c'est que cet autre sexe. Avec l'autre grand A, sexe, c'est-à-dire le langage. Voilà. Ça, c'est la découverte de la psychanalyse. Et alors, Dieu sait si depuis un certain nombre d'années, on n'arrive pas de tout foutre ça en l'air, parce que qu'est-ce que ça dérange ? Toutes les thérapies, machin, cognitives, non seulement on n'en parle pas, et les psychanalystes ont beaucoup de mal avec ça. Parce que la plupart dérivent, ils reglissent dans la connaissance. Alors, on va interpréter, par exemple, je ne sais pas quoi, moi, le comportement politique de tel président. Mais dès qu'on se met à interpréter, on est dans la connaissance. C'est pour ça qu'un psychanalyste ne va pas vous dire c'est ça que ça veut dire, au 13. Si on se met à interpréter Sarkozy, que Sarkozy est ceci, ça, c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'essaie de dire aujourd'hui. Rien. C'est autre chose. Et toute la question, oui, c'est de ne pas être complètement pris, c'est-à-dire, oui, prisonnier de l'univers, de ce qu'on appelle l'universel, qui n'est pas du tout l'universel, puisque c'est propre à chacun, c'est particulier, qui s'appelle l'image de l'imaginaire, cet espace particulier cartésien. Il peut avoir 3, 4, 5, 6 dimensions, on est dans la quatrième dimension, ça ne change rien. C'est toujours dans le même champ. Pour mettre 25, qu'est-ce que ça veut dire ? On est toujours dans un univers qui n'est pas universel, puisque ça n'est pas l'univers du langage. C'est l'univers du voir. Voilà. Nous en kikine avec des lunettes, des machins, etc. Je ne sais pas si vous trouvez ça assez horrible, des trucs qui nous arrivent en pleine figure, là, qu'on voit au cinéma. Bon, c'est pour nous distraire de quoi ? C'est ça la question. Je sais si ça marche, hein. Bon, maintenant que j'ai fait un peu ma crise, je peux vous dire un peu autre chose par rapport à ça. Oui, alors, donc, qu'est-ce que c'est que le corps ? Voilà. Qu'est-ce qui fait corps ? Qu'est-ce qui fait couple ? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait corps ? Qu'est-ce qui peut faire couple ? Alors, comme toujours, moi, je vais vous parler un peu de quelque chose que je découvre, qui est cette création artistique à partir de quoi ? À partir de ce qu'on appelle la voix. Mais vous voyez, la voix, c'est le même truc, quoi. La voix, est-ce que c'est ce qu'on entend ? Le sonore, habituellement, le sens. Ben oui, on ne peut pas dire que ce n'est pas ça. Mais c'est quand même pas ça. Voilà. Ce qu'on appelle en psychanalyse l'objet, donc objet partiel de voix, c'est pas ça du tout. Alors, si j'avais rencontré ça aux super chanteurs nationaux, qu'est-ce qu'ils me diraient ? Ben oui, c'est pas ça. C'est la façon dont ce qui sort, qu'on appelle le son, est scandé, d'une certaine manière. Et oui, on retombe sur tout à l'heure. Suivant que vous êtes dans autre et autre, c'est ça la scansion. Eh bien, évidemment, vous entendez autre chose. Donc, la voix, c'est pas tellement... Ça, c'est quelque chose que... J'en parlerai, je pense, lundi prochain, beaucoup plus important. C'est pas... Est-ce que c'est... Peut-être qu'on en parle, là. Je parle pas de la voix de l'IRCAM, là. Hein. C'est celle qui est analysée avec toutes des... J'ai rien contre, hein. Moi, c'est pas le problème. Hein. Avec des appareils très sophistiqués qui fait que maintenant, hein, si vous prenez le TGV, vous n'allez plus voir ça. Hein, maintenant, il n'y aura plus besoin de voix humaine puisqu'ils vont tout fabriquer avec des ordinateurs. Alors, c'est plus besoin de chanteurs d'opéra. C'est extraordinaire. Alors, il n'y en avait déjà plus tellement parce qu'on leur mettait des micros. Tous les chanteurs, à peu près de mon âge, enfin, c'est pas comme ça. Ce qui se passe, c'est entre le public et le chanteur. Donc c'est sa voix qui compte, c'est pas l'amplifier, c'est pas qu'il y a un ingénieur du son qui fasse ceci, cela. Alors maintenant ça va être pire parce qu'on va fabriquer des voix avec des morceaux de ceci et de cela. Ça va être des voix, j'imagine, même si elles sont belles, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de mouvement dedans. Et on va éduquer, vous voyez comment ça va le progrès, on va éduquer les gens qui vont à l'opéra à partir de ça. Parce que ça file comme ça, hein. C'est comme ça que ça glisse. Et évidemment, ça va rapporter beaucoup. Ceux qui ont fait tout ça, parce que c'est plus simple. Enfin, quand même, pour qu'il y ait un opéra, il faut quand même qu'il y ait des êtres parlants qui soient sur la scène. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la voix? Voilà. Où est la voix pour actuellement, lorsque je vous parle? C'est la question. Ben, je ne peux pas dire où elle est. Elle est peut-être dans les silences qui se créent, tout d'un coup, entre les mots. Certainement. Elle est là. Elle est dans ce quelque chose, entre vous et moi, qui fait qu'un certain moment, il peut y avoir ce rapport de couple, dont je parlais tout à l'heure. Mais qui n'est pas lié à ce que vous comprenez. Ça n'empêche pas de comprendre, hein. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'entendre. Et j'irai assez de plus en plus dans le sens suivant, c'est que quand on travaille ça à un certain niveau, à condition de ne pas avoir trop ce qu'on appelle une voix naturelle, c'est-à-dire d'emblée, vous voyez quoi une naturelle, voix naturelle, c'est-à-dire d'avoir d'emblée, quand on se met à chanter, une voix qui nous place à un certain niveau, et que ce niveau-là soit le nôtre. Ça, c'est les professionnels qui vont décider. Si, parce qu'on peut très bien, ça a été mon cas, penser qu'on est baryton, et puis quand on se met à chanter face à un professionnel, je dis, tu n'es pas baryton, t'es ténor. Ça fait quand même une tierce ou une quinte de différence. C'est énorme. Énorme. Donc, d'une part, et puis c'est pas du tout le même timbre, c'est pas du tout la même voix, c'est pas la même plénitude de voix, ça n'a rien à voir. Hein, le baryton, il est rageur comme ça. Le ténor, il n'est pas rageur. Un peu le ténor dramatique éventuellement, mais pas tellement. C'est pas pareil. D'ailleurs, dans les opéras, les barytons, c'est ceux qui viennent emmerder les ténors, hein, en permanence. Parce qu'évidemment, la soprane ou la mezzo, elle aime le ténor, et celui qui est jaloux, c'est le baryton. Alors en plus, il va y avoir là-bas, sur général, le père. C'est très simple, les intrigues à l'opéra. C'est vraiment, vraiment simple. Tout se passe donc ailleurs. Alors, maintenant, je vais me faire des ennemis là. Hein. Maintenant, on pense que c'est dans la mise en scène. Pas du tout. Bien sûr, on va avoir des mises en scène. Pourquoi pas, après tout. Pour moi, ce n'est pas du tout ça, parce que ce qui m'intéresse, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, ça qui m'a conduit là, c'est la voix. C'est le timbre de la voix. C'est ce qui passe dans la voix et qui est différent, effectivement, selon que c'est un ténor léger. Bon, il y avait un remède, par exemple, samedi dernier, hein, Flores, hein, dans le conte d'Ovide Rossini. Eh bien, donc c'est ça. Et en général, c'est des voix qui, je ne dis pas qu'elles sont déjà là, mais quand même. Hein. Et puis, Il y a des voix, c'est mon cas, comme j'ai été baryton, bah, on m'a dit que tu étais ténor, aux conclusions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire apparaître la voix. Mais il y a quelque chose qui s'entend d'emblée dans la voix qui fait qu'on n'est pas baryton, on est ténor, on est dans un registre. Donc il faut trouver la voix. Parce que moi j'arrivais au mi, vous voyez comment c'est fait, à peu près un clavier, hein. J'arrivais au mi à peu près, oui. Et maintenant je suis aussi naturel. Donc dans ce passage du mi aussi naturel, quelle est la voix qui est trouvée? C'est ça le fond du problème. Mon hypothèse, et je vais m'arrêter là-dessus, En sachant que ce qui compte, ce n'est pas uniquement la tessiture, hein, c'est autre chose dans la découverte de cette voie. Ce qui compte, c'est que, il y a quand même des choses étranges, j'ai parlé du trou tout à l'heure, que pour arriver à faire jaillir cette voie-là dans les aigus, il faut évidemment une hyperpression qui vient de la région abdominale, qui vient pousser le diaphragme pour que ça vienne exploser sur ce tranchant que constituent les cordes vocales, et qu'après ça vienne se réfléchir, répercuter devant, hein, au niveau du palais, mais tout à fait devant, derrière les deux incisives. Eh bien, c'est une histoire de trou, voilà, une histoire de tort, comme dit Lacan. Et c'est une histoire d'ouverture et de fermeture. La pression, c'est ça. Autrement dit, pour arriver à créer cette expérience particulière qui fait que va pouvoir s'entendre dans le jaillissement du si naturel quelque chose qui ne peut pas s'entendre autrement. Alors, bon, on va dire physiquement, c'est parce qu'il y a une fréquence. D'accord. Bien sûr qu'il y a une fréquence. Mais pourquoi il y a la fréquence? D'où ça vient cette pression? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est purement quelque chose de physiologique et d'anatomique? C'est ce qu'on pourrait croire. Je pense personnellement qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose de cette rencontre dont je parlais tout à l'heure au niveau du langage. Et donc, vous voyez que il y a... Alors, bon, je parle de l'avant, un autre il peut peut-être parler de la peinture, moi je connais pas ça. Hein. Il y a, pour produire, pour créer un savoir, parce qu'il n'est pas déjà là le son, hein. La voix en question n'est pas déjà là du tout. Il faut avoir une technique tout à fait particulière pour que ça sorte. Hein. Si vous respectez pas la technique, ça ne sort pas du tout. La voix, même si elle apparaît, elle recule. Donc, il faut avoir toute une technique particulière pour qu'apparaisse ce que j'appellerais, non pas un si bémol, non pas un si naturel, non pas un contrut, mais un savoir qui est porté par ça. Parce que c'est une note, j'en sais rien, c'est ce qu'on appelle une note, mais par ce quoi? Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais par cette ponctuation particulière qui sort du corps. Et le corps serait ce point de jouissance. Point, écrivez-le comme vous voulez, avec toute l'ambiguïté qu'il y a autour de ce mot-là, hein, ce point de jouissance qui fait qu'à un moment, dans certaines conditions, mais pas seulement, parce que on a une technique particulière, il est possible que jaillisse du corps quelque chose qui semble être comme un si bémol ou un si naturel ou un contrut que vous allez faire au violon. Mais il y a autre chose, parce que c'est la voix. La voix humaine transmet qu'il y a autre chose, qu'elle est autre chose qu'un instrument de musique. À tel point que justement, pour l'instrument de musique, pour le faire véritablement, pour l'humaniser au maximum, ce sera ça le rôle de l'interprète, il va complètement faire corps avec son instrument à un moment particulier. Et c'est ça qui va s'entendre, c'est pas le son, c'est ça qui va s'entendre de celui qui est là, tout d'un coup. Il se demande dans quel univers il est. Eh bien, il est dans l'univers de l'universel. En sachant que l'universel dont je parle, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui s'oppose au particulier, c'est pas du tout quelque chose qui est là, c'est pas une histoire de connaissance, c'est une histoire de rencontre, c'est-à-dire de quelque chose qui soudainement peut advenir. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir.